On va commencer avant que Pauline ne m'arrache les yeux. Je suis prudent. Bon, une partie du public se renouvelle chaque jour. Merci aux nouveaux arrivants. Pas de propos introductifs, sauf à accueillir Monsieur Padovani pour donc l'adjoint au maire de Marseille en charge de la santé qui. Au vu des événements locaux, ne pouvait pas être présent mercredi, qu'on avait excusé, qui nous fait l'honneur et l'amitié d'être présent ce matin. Et puis, dès la fin de son propos d'accueil, je remercierai également tout de suite le docteur Laurent Chambaud, donc directeur de l'EHESP, notre école, d'avoir bien voulu là aussi nous faire l'honneur et l'amitié de venir de Rennes pour présider, introduire et animer cette matinée sur la façon dont on peut réaliser les mutations qu'on a vues au cours de la journée d'hier sur les motifs de l'après-midi de mercredi. Et le thème donc de ce matin lui était tout naturellement dédié puisqu'il s'agit de regarder ce qui pourrait se passer du côté des politiques publiques en matière de transformation. Et en sachant qu'on est en train d'ajuster le programme, parce que pour l'instant, nos intervenants portugais semblent perdus corps et biens, on ne les a pas localisés, donc on va essayer de faire au mieux. Voilà, ça fait partie des aléas. Monsieur Padovani, je vous laisse bien volontiers la place.
Mesdames, Messieurs, d'habitude on dit bienvenue à Marseille, comme vous êtes déjà ici depuis 2 jours. J'espère que vous avez pu, quelque part, apprécier les qualités de cette ville. J'avoue que actuellement, comme l'a évoqué votre président, Monsieur Mariotti, nous sommes dans un contexte un peu moins festif que d'habitude, un peu plus concentré et... Les événements qui nous ont frappés le 5 novembre continuent aujourd'hui à être présents à l'esprit parce que finalement on a déclenché au 5 novembre une grosse opération de restructuration et donc de conduire un changement nous aussi dans le cadre d'une politique du logement qui, il faut bien le dire, a divers sujets et très complexes, elle aussi. Donc, c'est vrai que aujourd'hui, dans notre société, conduire un changement, c'est un peu l'ambition et peut-être aussi la nécessité de tous. On est à un croisement de société. Quelqu'un, un homme politique, disait il y a quelque temps... On est en train de changer de monde, mais on est encore dans l'ancien monde et on n'est pas tout à fait dans le nouveau monde. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, cette transition, elle nous amène tous à nous poser des questions, à réfléchir sur le devenir à la fois de notre parcours de vie, de notre parcours professionnel et donc de l'ensemble des constructions qu'on a à faire. En ce qui concerne votre sujet, la santé mentale, donc dont je suis... quelque part aussi un petit élément qui permet de bouger le curseur au niveau de la ville de Marseille, puisque la ville de Marseille possède un contrat local de santé mentale que nous appelons ici le COSME, le Conseil d'orientation en santé mentale, et dont la présidence est confiée au maire et que j'assume cette présidence par dérogation à sa place. Donc le fait aussi que... Ce conseil local, très local, de proximité, s'inscrit aussi dans une démarche que l'on voit aujourd'hui nationalement recentrée, si je puis dire, sur le périmètre très localisé des territoires de la France dans nos différentes régions et que les parcours de santé mentale, s'ils ont peut-être été pas très mis en valeur au niveau de la stratégie nationale de santé, apparaissent quand même au niveau de la loi de Marisol Touraine comme étant un axe important sur lequel, au niveau de la santé mentale, il faut envisager cette conduite du changement. C'est vrai que on l'évoque avec un certain nombre d'acteurs ici présents qui travaillent avec moi sur ces sujets, que ce soit les directeurs d'hôpitaux ou que ce soit certains de mes confrères psychiatres. La configuration locale est assez complexe quand on voit aujourd'hui tous les schémas qui sont ceux qui nous sont proposés du contrat local de santé mentale, en passant par le conseil territorial de santé, dans lequel il y a une sous-commission santé mentale qui elle-même réfléchit sur le PTSM, qui doit lui-même s'inscrire dans les GHT psychiatriques, qui eux-mêmes s'inscrit dans la communauté territoriale de psychiatrie, qui elle-même s'inscrit dans le conseil territorial de santé. Donc on voit que pour que tous ces axes-là puissent trouver une sortie, il faut effectivement conduire un changement et voir comment on ne se noie pas et comment l'usager, comment le thérapeute, comment l'action se construit à travers tous ces acronymes et toutes ces commissions. C'est vrai que tout a changé et qu'aujourd'hui, quand on parle de santé, on ne parle plus exclusivement de soins, mais on parle de parcours qui motive aussi tous les déterminants de la santé, qu'ils soient déterminants sociaux, économiques, environnementaux, et qu'aujourd'hui, la construction d'un parcours de santé, plus que d'un parcours de soins, se construit avec l'ensemble du tissu à la fois soignant, médical, donc médico-social et social. Et donc, c'est vrai que pour ne pas perdre en route des éléments que nous avons tous à l'esprit et qui constituent le fond de notre cœur de métier, il faut qu'on voit comment articuler et reconstruire un peu l'équilibre qu'on peut avoir entre tous les acteurs aujourd'hui de ce parcours de santé, en santé mentale. Donc c'est une dimension sur laquelle, avec, je le répète, avec mes collègues et amis, on essaie ici de s'emparer pour voir comment, sur un territoire aussi vaste que la ville de Marseille, qui, je le rappelle, fait à peu près deux fois la dimension de Paris intramuros, puisqu'on a 241 km² avec 32 km de côte. Donc ça veut dire que la ville fait 32 km d'un bout à l'autre, donc avec des populations aussi diverses et avec, il faut bien le dire, une précarité assez marquée et dont on sait qu'aujourd'hui, comme avant d'ailleurs, la précarité et la santé mentale vont souvent de pair aussi dans ceux qui n'ont pour seule vision que celle de la rue. Donc j'espère que de vos travaux vont sortir des axes qui vont permettre à tout le monde de trouver son chemin, que ce soit aux professionnels de santé et du soin, que ce soit aux professionnels de l'accompagnement et que ce soit aussi au niveau des usagers. Donc il ne faut pas oublier aujourd'hui aussi la part importante qu'ils prennent de plus en plus dans le cadre de ces reconstitutions et de ces parcours qui leur appartient et qu'on ne peut pas construire aussi sans eux. Donc, une fois de plus, je tiens à m'excuser pour ne pas avoir été là mercredi, mais je suis perpétuellement branché sur mon portable et là, déjà, j'ai encore des situations qui vont m'appeler à vous quitter assez rapidement parce que les choses s'intensifient. Vous savez, ici, vous arrivez à un moment où vous constatez effectivement ce qui se passe aussi au niveau du changement climatique et que nous vivons ici aussi à Marseille depuis un certain nombre de temps. C'est qu'on alterne trop souvent ici le soleil qui est notre facteur commun. Mais aujourd'hui, les intempéries au niveau pluie sont de plus en plus nombreuses cette année à Marseille. Et donc là aussi, ça influe sur tout un dispositif, et notamment, comme l'évoquait le maire, on l'a pris un petit peu au second degré, mais c'est vrai que les intempéries jouent un rôle beaucoup sur ce bâti marseillais, qui est un bâti ancien, qui est... J'ai discuté tout à l'heure, là, avec une représentante de la ville de Strasbourg. J'adore cette ville où je vais souvent là-bas, et quand on voit effectivement la construction de style prussien pendant un certain nombre d'années, on voit heureusement que ce genre de choses ne peut pas arriver dans cette façon de construire. Donc c'est pour dire que tout se bâtit et tout se rebâtit, et quand on le rebâtit, bien, il faut le faire avec les éléments du moment. Et donc si vous rebâtissez aujourd'hui le chemin de la santé mentale, eh bien il faut le rebâtir avec les outils qu'on a aujourd'hui. Et c'est ce que je pense que vous allez faire et nous donner comme résultat. Et on en prendra acte et on essaiera de l'appliquer sur le terrain. Merci, bon séjour à Marseille pour ceux qui vont y rester le week-end. Vous verrez que s'il ne pleut pas, il y a d'excellentes choses à voir et à faire pour ceux qui ne connaissent pas bien Marseille. En particulier les Calanques, les musées. Nous n'avons pas de match de football ici ce week-end. Donc, en général, les gens sont friands d'aller au stade Vélodrome, mais bon, l'OM joue à l'extérieur ce week-end. Donc merci à tous, merci aux organisateurs, merci à tous ceux qui ont choisi Marseille, et bonne continuation pour ces travaux. Merci.
Bien. Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur l'Adjoint au maire. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je ne vais pas prendre le pupitre et je vais me mettre tout de suite là, mais ne vous inquiétez pas, la table ronde, ce n'est pas que moi. Donc, je vais donc appeler au fur et à mesure les personnes. Je jette quand même un œil au programme qui est en train d'être révisé en direct. Donc nous aurons peut-être un peu plus de temps, y compris pour les interventions des personnes ce matin. Peut-être avant d'appeler les personnes pour la première intervention, d'abord je voudrais vous dire que je suis très heureux d'être parmi vous ce matin. Donc merci Monsieur le Président de cette invitation. Je suis moi aussi très honoré d'être avec vous. Dans cette première configuration internationale de vos échanges, je crois que c'est une dimension très importante aussi de ce que vous avez discuté, de ce que vous allez discuter aujourd'hui. En préalable, je voudrais dire que l'École des hautes études en santé publique est probablement, très certainement, pas assez présente sur les champs qui sont les vôtres. Alors, nous avons des personnes qui travaillent, et je pense notamment à Catherine Keller qui a participé à l'organisation de ces journées et qui est très présente sur ce thème, mais une école comme la nôtre, une école de santé publique qui n'a pas une dimension forte et reconnue dans le domaine de la santé mentale, il lui manque quelque chose. Et je crois que c'est aussi un des sujets sur lesquels il faudra qu'on travaille ensemble, parce que vous savez bien, pour ceux qui connaissent l'école, que l'école a subi une transformation importante il y a 10 ans, qu'il faut maintenant qu'on consolide sur ces deux versants. Et le premier versant, qui est donc le versant que plusieurs d'entre vous dans la salle connaissent depuis longtemps, c'est-à-dire la formation des cadres dirigeants de notre système de santé, et y compris les cadres dirigeants qui interviennent dans le domaine de la santé mentale et de la psychiatrie. Mais il y a aussi maintenant, depuis 10 ans, le développement d'activités académiques et de recherche dans les domaines de la santé publique, et on ne peut pas couvrir l'ensemble du champ de la santé publique si on ne s'intéresse pas à un moment donné à la santé mentale. Et donc je crois que c'est vraiment un élément important sur lequel il faut que nous travaillions, que nous développions un certain nombre de choses. Nous sommes en ce moment à l'école en train de préparer notre prochain plan stratégique pour les 5 prochaines années, que nous présenterons à nos deux tutelles, la tutelle santé et la tutelle enseignement supérieur et recherche. Et c'est probablement un moment important et stratégique pour nous, y compris pour voir quelle serait notre capacité de développement dans le domaine de la santé mentale et de la psychiatrie, probablement aussi nous permettre de discuter et de négocier les conditions de ce développement, qui sont bien entendu des conditions financières, mais pas que. C'est aussi quelle est notre capacité d'articulation avec ce qui se fait déjà au niveau académique et recherche en France ou à l'étranger, puisque nous avons une dimension internationale dans nos missions, mais c'est aussi quel mode de relation nous poursuivons, nous développons avec le milieu professionnel dans le domaine de la santé mentale et la psychiatrie. Donc tout ça pour vous dire, Monsieur le Président, encore une fois merci, parce que cette invitation arrive à un moment pour nous opportun, pour voir quelles sont les possibilités que nous avons de développement dans ce domaine. Ce que je voudrais en profiter aussi, y compris par le titre de la session de ce matin, pour vous donner peut-être 2 ou 3 pistes qui, à mon sens, peuvent être importantes et qui peuvent peut-être aussi faire écho chez vous et conditionner les éléments dont je viens de parler sur le développement des activités de l'école dans ce domaine. Premier point sur lequel je voudrais insister, qui n'est pas spécifique à la santé mentale, mais qui, à mon avis, s'applique à la santé mentale, c'est nous sommes vraiment dans une période de changement profond. Pas uniquement en France, je pense que vous l'avez vu dans les interventions que vous avez entendues au début de ce colloque, mais dans pratiquement tous les pays, on retrouve un certain nombre de questionnements, on voit se développer un certain nombre d'enjeux qui sont communs, mais pour lesquels les pays peuvent avoir des réponses différentes. Et je voudrais juste insister là-dessus parce que, en fait, il y a ce qu'on appelle 2 transitions, la transition épidémiologique et la transition démographique, pour lesquelles vous êtes peut-être déjà coutumier de ces termes. En gros, l'augmentation des maladies chroniques, y compris les problèmes de santé mentale, et le vieillissement de la population, c'est pas nouveau, ça. On le sait depuis les années 70, la littérature scientifique est abondante sur le sujet, mais ça n'a rien changé, ou très peu changé de choses, sur les systèmes de santé depuis les années 70. Or, depuis quelques années, et alors, ce qui est aussi peut-être important, c'est que ces 2 transitions, finalement, elles pesaient surtout sur les besoins, c'est-à-dire les besoins se transforment, mais l'offre ne s'est pas transformée, ou très peu. Et par ailleurs, en même temps, maintenant, depuis quelques années, on a d'autres transitions qui pèsent beaucoup plus sur une évolution de l'offre et qui vont, je pense, modifier le paysage. Transition technologique. L'irruption des nouvelles technologies arrive partout et elle modifie la façon dont les réponses peuvent être faites aux besoins des populations. Je vais aller très vite. Transition démocratique. De plus en plus, dans tous les systèmes, dans tous les pays, on modifie la capacité de répondre aux besoins et aux attentes des populations, que ce soit à titre individuel ou que ce soit à titre collectif. Le poids et les mots des personnes, que ce soit des patients à titre singulier, c'est-à-dire de relation avec les équipes soignantes, ou que ce soit les usagers ou les citoyens, quand on parle d'évolution du système, dans tous les pays qui sont tout autour de nous, et notamment ceux que vous avez invités, ce poids-là devient de plus en plus reconnu et donc modifie fortement la capacité de travail avec les populations, encore une fois, que ce soit à titre individuel ou à titre collectif. Et puis, autre transition, mais il y en a probablement d'autres, c'est une transition professionnelle. Le mode de travail des professionnels d'aujourd'hui se distingue fortement de ceux que l'on a pu, nous, en tout cas moi, connaître il y a 20 ou 30 ans. Et donc, tous ces éléments-là, à mon avis, vont peser pour faire en sorte que ces évolutions se fassent. Le problème, c'est comment et à quel rythme ils vont se faire. Et là, on voit bien qu'il y a, je dirais, des partisans ou des gens qui attendent le grand soir, le grand changement, la grande transition. Très souvent, ce qu'on voit, et il y a eu pas mal de travail scientifique sur le sujet, c'est que dans les politiques publiques, c'est rarement comme ça. C'est très souvent des politiques de marche à gravir, et donc, non pas de petits pas, mais de transformation progressive des systèmes. Donc ça, c'est peut-être aussi une discussion à avoir entre vous. Deuxième et dernier point sur lequel je voudrais insister, parce que pour nous, ça, c'est aussi un sujet qui est important dans l'école de santé publique. Je vous ai dit, il faut qu'on travaille beaucoup plus sur la santé mentale et l'organisation des services dans notre école, mais c'est entre spécificité et convergence avec le reste. Et comment on travaille ces aspects-là? Quelle place pour une organisation pertinente des services et des structures en santé mentale et en psychiatrie par rapport à l'évolution de l'organisation des services et des structures dans le domaine de la santé? Et ça, je pense que c'est un sujet, à mon avis, qui est au cœur, y compris de ce que vous pouvez discuter aujourd'hui lors de ces journées, mais qui va être au cœur aussi de tous les éléments de discussion et de négociation dans le cadre de la politique affichée de transformation du système de santé. Et pour ma part, je trouve vraiment que là où on peut peut-être être en résonance, c'est justement de pouvoir, avec vous, travailler ces aspects-là de quels sont les éléments convergents, quelles sont les spécificités, à tous les niveaux. Est-ce qu'une politique de promotion de la santé en santé mentale est différente d'une politique de promotion de la santé de façon générale? Comment on vit l'intersectorialité? Le représentant du maire parlait des conseils locaux de santé mentale. Comment les conseils locaux de santé mentale se différencient d'autres structures comme les contrats locaux de santé? Est-ce qu'ils sont à l'intérieur? Est-ce qu'ils sont séparés? Est-ce qu'il y a des passerelles entre les deux? Sur l'organisation des services, vous le savez bien et vous le voyez bien, c'est comment on reconnaît des organisations spécifiques par rapport aux organisations qui sont en place. Comment la santé mentale et la psychiatrie va s'intégrer à la dynamique des CPTS ou pas, etc., etc. Donc je ne veux pas dérouler l'ensemble, mais je pense que c'est des éléments qui sont importants pour nous, dans notre contexte français, à appréhender. Et dans ce cadre-là, les expériences étrangères sont toujours très éclairantes parce que c'est faut pas faire de l'analyse comparée des systèmes de santé sauvages. Les systèmes de santé que vous voyez sont inscrits dans une histoire, dans une culture, dans des modalités qui sont différentes. Mais de pouvoir avoir ce décentrage régulier, à mon avis, est une richesse. Et encore une fois, je félicite les organisateurs d'avoir vraiment mis l'accent là-dessus. Donc, je ne voudrais pas être plus long parce que vous êtes là surtout pour, et moi aussi, pour entendre les intervenants de cette première session de la matinée.